Eh bien, cher frère, c'est avec une grande joie et une grande satisfaction que nous venons aujourd'hui vous rejoindre dans ce local transformé en chapelle afin de le bénir, afin que les grâces de Dieu, que les bénédictions de Dieu descendent dans ce lieu dont vous avez entendu chanter tout à l'heure. Eques domus Dei et porta celi. Voici la demeure de Dieu et la porte du ciel. Et si vous avez chanté cela de tout cœur, en chantant aussi toutes les litanies, afin que tous les saints du ciel fassent descendre les bénédictions de Dieu sur cette chapelle, c'est bien parce que vous en sentez le besoin. Si notre joie est profonde, nous devons bien dire qu'elle est teintée d'un peu de tristesse. Pourquoi ? Parce que les responsables de votre association ont tout fait pour demander à Monseigneur l'évêque de Strasbourg de leur donner une chapelle. Ce n'est pas qu'ils aient souhaité venir dans un local comme celui-ci. Ils auraient certes voulu avoir une des chapelles désaffectées aujourd'hui, comme il y en a tant, qui aurait été plus propice à la louange du bon Dieu, au saint sacrifice de la messe, au sacrement, à la sanctification des âmes. Mais hélas, vous le savez, ce sont des refus obstinés qui ont été répondus à cet appel, appel pourtant bien légitime. Que demandez-vous ? Que demandait-il ? Ces membres de votre association, ils demandaient tout simplement à leur évêque de bien vouloir les laisser continuer les mêmes prières, les mêmes sacrements, le même saint sacrifice de la messe que leurs ancêtres, que ceux-mêmes qu'ils ont connus dans leur jeunesse, qu'on leur a appris à vénérer, à prier avec dévotion, et dont ils se souviennent avec émotion quand ils pensent à leurs parents, à leurs grands-parents, à l'atmosphère familiale qui régnait alors, où l'on priait dans les familles, où l'on aimait venir dans les chapelles, dans les églises, pour y prier, pour y adorer le Saint-Sacrement, pour y recevoir les grâces que notre Seigneur va nous donner. Par un mystère incompréhensible. Incompréhensible. Les évêques, désormais, beaucoup d'évêques, malheureusement, sont entrés dans les nouveautés, ont abandonné les traditions et ont voulu imposer ces nouveautés à tous leurs fidèles. Et cependant, les fruits sont là, devant nos yeux, qui sont évidents. Ces nouveautés ne donnent pas cette grâce que donnait la tradition, que donnait tout ce que la tradition estimait, tout ce que notre Seigneur lui-même nous a donné, et ce que l'Église nous a donné également à travers tous les siècles jusqu'à nos jours. Alors, il faut souffrir. Il faut patienter. Mais cependant, vous avez raison. Vous avez raison de continuer la tradition. C'est l'Église qui le veut. C'est notre Seigneur qui vous le demande. Et c'est le salut de vos âmes aussi qui le demande. Alors vous voici aujourd'hui réunis dans ce local transformé en chapelle. Et il vous fallait des prêtres. et où trouver des prêtres. Oh, certes, je suis bien certain que si de la part des évêchés un peu plus de liberté était donnée pour suivre la tradition, beaucoup de vos prêtres seraient heureux de vous accueillir dans leurs églises. Beaucoup de vos prêtres seraient heureux de retrouver la tradition qu'ils ont connue dans leur jeunesse et qu'ils aimaient tant. Mais malheureusement, devant les menaces qui leur sont faites par les services de l'évêché et parfois par l'évêque lui-même, alors ils hésitent, alors ils souffrent en silence, en attendant qu'un jour la liberté soit donnée tout simplement, tout bonnement, à ce qui est désiré par beaucoup de fidèles. Et alors vous avez fait appel à la fraternité sacerdotale Saint-Pilis. Oh, je sais bien, les évêques me reprochent de venir dans leur diocèse. Et pourquoi venez-vous dans mon diocèse? Vous n'avez pas le droit de venir rejoindre nos fidèles, nos diocésains. Mais je leur réponds, si vous vous occupiez vous-même de ces fidèles, si vous répondiez à leurs demandes, à ces demandes justifiées, à ces demandes qui non seulement sont justifiées par un amour de la tradition, mais par le besoin de sauver les âmes. Car aujourd'hui, on ne sait plus, avec ces nouveautés et ces changements qui ont eu lieu partout, si vraiment notre Seigneur Jésus-Christ est présent dans l'Eucharistie. On ne sait plus si les sacrements qui sont donnés sont des sacrements qui donnent la grâce. Peut-être sont-ils faits avec une certaine dévotion, mais pensez par exemple au sacrement de confirmation, où la matière elle-même a été changée. Dans tous les livres les plus anciens, les traditions les plus anciennes, on nous a toujours enseigné, et les conciles l'ont confirmé, et le catéchisme de Trente l'a confirmé. On doit employer pour le Saint-Crème l'huile d'olive, auquel est ajouté un peu de baume, et consacré par l'évêque le jeudi saint. Voilà ce que dit toute la tradition, toute la tradition. C'est la matière même du sacrement de confirmation. Alors aujourd'hui, nous ne savons pas si l'huile qui est employée n'est pas une huile d'arachide ou une autre huile comme matière du sacrement de confirmation. En ce cas, on peut, sinon être certain, au moins avoir un doute sur la validité, un doute sérieux sur la validité du sacrement de confirmation. Comment a-t-on pu changer des choses qui ont duré pendant des siècles et dont toutes les bénédictions, la bénédiction du Saint-Crème exprime avec des termes merveilleux ce qu'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, quand on pense que notre Seigneur a subi son agonie dans le jardin des oliviers. Pourquoi dans le jardin des oliviers? Il semble que notre Seigneur ait voulu bénir, voyez, cette huile d'olive par son sang, par l'eau qui coulait de son front, son sang qui coulait par terre et qui était comme absorbé par les oliviers afin de bénir cette huile qui devrait servir un jour comme Saint-Crème pour tous ceux qui recevraient ce Saint-Crème. Quelle merveille! Tout cela est rappelé dans les prières du pontifical le jeudi saint. Le baume, l'odeur du baume, l'odeur des vertus de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, donc, on a supprimé le baume n'est plus nécessaire. Mais tout cela avait une magnifique signification. Pourquoi avoir changé ces choses-là? Et mettre un doute maintenant dans la réception de ces sacrements. Vous savez bien que quelquefois, on invite maintenant pour l'extrême onction ceux qui ont plus de 60 ans, ceux qui ont plus de 65 ans, plus de 70 ans, on leur dit, si vous désirez, vous pouvez vous réunir dans telle chapelle ou dans telle salle, et on vous donnera l'extrême onction. Mais mes bien chers frères, ce n'est pas valide. Il n'y a pas d'extrême onction dans ce cas. Pourquoi? La matière prochaine du sacrement de confirmation, c'est le malade, infirmus. Si quis infirmat, dit Saint Jacques. Et c'est sur les paroles de Saint Jacques que s'appuie l'Église. Si quis infirmat, si quelqu'un est malade dans une maladie qui peut le conduire à la mort, alors on appelle le prêtre et le prêtre loin de l'huile et fait des prières afin qu'il soit délivré de ses péchés et préparé à la mort. Voilà ce qu'est le sacrement de l'extrême onction. Ce sacrement d'extrême onction qui réunit des personnes qui ont plus de 65 ans, qui sont peut-être mieux portantes que des enfants de 15 ans ou 17 ans, ne vaut rien. C'est le malade qui est le sujet même de la confirmation, de l'extrême onction. Des aberrations, on se demande comment c'est possible. C'est un grand mystère. Ce qui s'est passé dans l'Église ces dernières années est un grand mystère. Mystère d'iniquité. Pour détruire les âmes, pour emmener les âmes en enfer, ce n'est pas possible. Oh, je ne dis pas que ceux qui l'ont fait ont eu cette intention, mais le fait est là. Les gens apostasient, vont dans les sectes n'importe lesquelles, qui se multiplient partout, abandonnent la pratique religieuse, les paroisses deviennent vides, les séminaires vides, les congrégations religieuses vendent leurs couvents. Alors, il s'est bien passé quelque chose. Alors nous sommes persuadés que maintenant la tradition de l'Église, une tradition de 20 siècles, il n'est pas possible que nous soyons dans l'erreur. Ou alors, pendant 20 siècles, l'Église s'est trompée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que l'Église se soit trompée pendant 20 siècles. Alors nous sommes décidés de continuer la tradition, tout simplement. Vous me demandez de venir bénir cette chapelle, je le fais volontiers. Demain, vous me demanderez la confirmation, je vous la donnerai volontiers. Et je dis aux évêques, soyez des pasteurs qui s'occupent de toutes les brebis, pas seulement d'une partie du troupeau. Et ces brebis qui réclament la grâce, comme l'ont reçu leurs parents et leurs grands-parents, ont tout à fait raison. Et vous devez leur donner les sacrements comme ils le demandent, s'appuyant sur la tradition de l'Église. Alors nous continuons, et c'est pourquoi nous sommes heureux de vous envoyer ici tous les dimanches un prêtre pour vous dire la Sainte Messe et que vous soyez certain que dans la Sainte Communion, vous recevez vraiment le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ça n'a pas d'importance, là? Est-ce que ça n'a pas d'importance que notre Seigneur soit présent dans l'Eucharistie ou pas présent dans l'Eucharistie? Ça ne fait rien. C'est pas possible. C'est renier toute notre foi. Ce qu'il y a de plus beau dans la vie chrétienne, c'est de s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes créés. C'est pour ça que notre Seigneur est descendu sur la terre. Il s'est incarné afin de devenir notre hôte, que nous le recevions en nous, dans notre cœur. Lui qui est Dieu, lui qui nous a créés, lui qui viendra sur les nuées du ciel pour juger tous les hommes. C'est lui que nous recevons dans la Sainte Eucharistie, lui qui a offert tout son sang pour nous, pour la rédemption de nos péchés. Il est là, dans la Sainte Eucharistie. Alors, nous n'aurions pas de souci de savoir si vraiment notre Seigneur est présent ou pas. Or, quand nous célébrons la Sainte Messe, comme je vais la célébrer dans quelques instants, je n'invente rien. C'est la messe qu'on m'a apprise au séminaire, c'est la messe qu'on a célébrée pendant des siècles, c'est la messe qu'on m'a appris à enseigner dans les séminaires. Alors en faisant cela, je suis sûr que notre Seigneur est vraiment présent dans la Sainte Eucharistie pour nous donner la grâce, pour vivre avec notre Seigneur. Et c'est ça, voyez-vous, une église, une chapelle, c'est un endroit qui est la maison de Dieu et la porte du ciel. Maison de Dieu et porte du ciel, car c'est d'abord la maison de Dieu. Maintenant, on dit volontiers, c'est la maison du peuple de Dieu. Mais pour que ce soit le peuple de Dieu, il faut que Dieu soit présent. Alors on fait de ces même des églises maintenant une espèce de réunion d'amitié humaine, purement de fraternité. On rend le pain de l'amitié. On fait une Eucharistie. Et tout cela n'a pas ce sens profond que l'Église donnait au saint sacrifice de la messe. C'est le sacrifice de la croix, vraiment, qui se renouvelle sur nos autels. Alors, je suis sûr que dans tous ces groupes de traditionalistes que j'ai l'occasion de visiter depuis les deux Amériques et même l'Australie et tous les pays où je vais, je retrouve la même ambiance, les mêmes désirs. Tous nous disent la tradition. Nous voulons la tradition. Nous voulons le saint sacrifice de la messe comme toujours. Nous voulons les sacrements comme toujours, les prières comme toujours, la dévotion à la Sainte Vierge comme toujours. C'est cela que nous voulons, la Bible de toujours, le catéchisme qui nous a enseigné la foi, qui a enseigné la foi à nos parents comme à nous quand nous étions jeunes. C'est cela que nous voulons, c'est cela que l'Église nous a enseigné. Nous voulons cela pour nos enfants. Et alors non seulement nous sentons ce désir, cette soif pour les gens de recevoir la grâce, d'être vraiment rempli de la grâce du Seigneur, du Saint-Esprit, mais aussi on sent rayonner cette communauté chrétienne comme le faisaient les églises autrefois. Voyez, il est si beau de voir des enfants ici, des familles nombreuses. Pourquoi ces familles nombreuses? Parce que les parents veulent obéir au commandement de Dieu. Et je vous assure que dans tous ces groupes traditionnels, il y a énormément d'enfants, des familles nombreuses, parce que les parents sont chrétiens, parce que les parents veulent être chrétiens. Et ils savent que s'ils sont mariés, c'est pour avoir des enfants, et c'est pour avoir une famille nombreuse, pour donner beaucoup d'âmes à notre Seigneur Jésus-Christ et sauver ses âmes dans le ciel. Voilà pourquoi ces parents ont des enfants. Et on retrouve toute cette ambiance de l'Église catholique, dans ces groupes de traditionalistes. Et je citerai un exemple encore, je dirais, plus probant, c'est celui de mon séminaire et de mes séminaires. D'où viennent la plupart de nos séminaristes, quelques-uns, hélas, viennent au séminaire un peu contre le désir de leurs parents. Leurs parents ne comprennent pas bien. Aller à Écône, c'est dangereux. Aller à Écône, c'est se séparer apparemment, disent-ils, de l'Église. Cela est tout à fait faux, car c'est précisément pour demeurer dans l'Église que nous demeurons dans la tradition. Alors, ces jeunes qui viennent en général dans nos séminaires viennent précisément de ces familles chrétiennes, qui sont une source de vocation. Je pense qu'il n'y a pas de signe plus grand de la sainteté, je dirais, et de la vérité d'une communauté chrétienne et d'une paroisse que le nombre des vocations qui en sortent. Nombre de vocations sacerdotales, nombre de vocations de religieux, de religieuses, ça, c'est un signe. Quand une paroisse donne beaucoup de vocations, cette paroisse est bonne, cette paroisse est sainte. Eh bien, c'est le cas de nos groupes de tradition. Nous avons reçu cette année 75 nouveaux séminaristes dans nos séminaires. 75 nouveaux séminaristes dans nos séminaires. Demandez aussi aux religieuses qui ont gardé la tradition, demandez à Schellenberg en Suisse, demandez à Mayence, demandez aux sœurs de Fangeaux, de Brignoles en France, demandez aux sœurs du Carmel de Quiévrain. Elles regorgent de vocations. Elles ont beaucoup de vocations. Elles sont passées en l'espace. Les sœurs de Fangeaux, par exemple, sont passées d'une vingtaine qu'elles étaient il y a 10 ans à 50 maintenant, en l'espace de 10 ans. Ce n'est pas un signe, cela. C'est un signe de la sainteté de la tradition. Nous ne pouvons pas abandonner la tradition. Abandonner la tradition, c'est abandonner l'Église, c'est abandonner notre Seigneur, c'est abandonner la grâce de Dieu, et c'est mourir. Mourir, c'est se suicider. Alors, mes bien chers frères, je vous félicite de tout cœur de maintenir la tradition, sans aucune acrimonie contre les évêques, sans aucune acrimonie contre les prêtres. Nous ne devons pas chercher à avoir des sentiments de mécontentement, de haine, de division, pas du tout. Nous devons suivre dans la charité de notre Seigneur. en priant pour eux, en demandant au bon Dieu qu'il les éclaire, qu'il leur fasse voir la réalité, et qu'un jour ils reconnaissent que ce que vous avez fait, ce que vous avez demandé, c'est juste, c'est bien. C'est là que se trouve vraiment l'Église. C'est cela qu'il faut le demander. Sans être divisés entre nous non plus, pas de division entre nous. Soyons unis dans la charité de notre Seigneur et autour de l'autel. C'est l'autel qui doit être notre lieu de rassemblement, le saint sacrifice de notre Seigneur. Voilà ce que nous demanderons aujourd'hui, n'est-ce pas, tous ensemble, que le bon Dieu nous donne cette grâce de l'unité, cette grâce de l'union autour de l'autel, et l'autel qui représente pour nous l'évêque, l'Église, le pape, et toute la tradition de l'Église, et tous les papes qui ont précédé et qui sont encore maintenant, et le pape qui est encore maintenant à Rome. Eh bien, tout cela se représente dans notre autel. Et c'est pour lui que nous prions aussi, pour lui que nous demandons les lumières de l'Esprit Saint, afin qu'il ramène l'Église dans la voie de la tradition, pour sauver l'Église et pour sauver les âmes. Et nous nous confierons spécialement aujourd'hui à Saint-Joseph, puisque votre chapelle est dédiée à Saint-Joseph et à la très sainte Vierge Marie. Nous recevons toutes les grâces par la Vierge Marie. Aucune des grâces que nous recevons n'est reçue sans la Vierge Marie. Alors invoquons-la aujourd'hui de tout notre cœur. Demandons à notre bonne Mère du Ciel de nous garder dans la foi catholique, de nous garder dans la grâce du bon Dieu et de garder tous les enfants dont nous avons la charge et tous ceux dont nous avons la charge dans la grâce de notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.